Les mots des religions. On retrouve Sylvie Barnet pour les mots du christianisme.
Sylvie Barnet, bonjour.
Bonjour Hélène Renard.
Aujourd'hui, vous avez choisi un mot spécifiquement chrétien, je crois, le mot moine. D'où vient ce mot moine ?
Alors, le mot moine vient du grec monos, qui signifie seul à seul, être seul avec Dieu.
Mais les moines ne sont jamais tout seuls, justement, ils sont ensemble.
Alors, les moines sont tout seuls avec Dieu, mais ils partagent leur vie de moine avec des frères, puisque au début du monachisme, il a été décidé que les moines vivraient soit en communauté, on les a alors appelés les moines cénobites, parce qu'ils menaient une vie cénobitique, c'est-à-dire communautaire, ou alors ils vivaient tout seuls, leur solitude avec Dieu. Dans ce cas-là, on les appelle les ermites.
Ah, et les anachorètes, alors, c'est quoi ?
Alors, les anachorètes, ce sont les ermites qui choisissent d'aller vivre dans le désert, une expérience de solitude et d'ascèse profonde.
Ça s'est fait dès le début du christianisme ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monachisme qui naît au milieu du IIIe siècle représente une véritable révolution dans le christianisme. Et qu'est-ce qui se passe au milieu du IIIe siècle ? Eh bien, il y a des hommes qui décident de vivre une expérience de rencontre avec Dieu totalement nouvelle. Parce que dans l'Antiquité, dans le monde oriental, on ne conçoit pas la relation entre les gens indépendamment du groupe. Alors, le fait de prendre la décision de se retirer au désert et de vivre tout seul, c'est quelque chose de totalement inouï. C'est presque un mouvement révolutionnaire.
Même si dans le judaïsme, il y a quand même une relation au désert, où beaucoup de figures du judaïsme sont quand même dans le désert, ce n'était pas une pratique du judaïsme d'être moine.
Dans le judaïsme, il y a des tentatives pour vivre une forme de relation avec Dieu d'une manière isolée. Mais l'idée d'aller vivre au désert, c'est quelque chose qui se met en place dans le christianisme par imitation de la vie du Christ, qui décide de se retirer au désert 40 jours, et c'est là qu'il va faire la fameuse expérience de la rencontre avec le diable et des tentations du diable. Or, qu'est-ce que vivent les premiers moines ? Ils nous racontent comment ils sont aux prises avec ces tentations diaboliques.
Alors évidemment, on pense à saint Antoine, et peut-être même, non pas à saint Jérôme, mais à saint Antoine. Alors vraiment, c'était un des ermites de cette époque.
Alors saint Antoine, on va le considérer comme le premier moine, c'est milieu du IVe siècle, et saint Antoine décrit ses rencontres avec les diables sous la forme de monstres effrayants, semblables à des lions qui le déchirent, qui le lacèrent, et qui l'empêchent de vivre son expérience de rencontre avec Dieu.
Alors, Sylvie Barnet, quand vous dites qu'il se retire au désert, c'est de quel désert ? Où se retire-t-il ?
Alors, il se retire dans un premier temps en Égypte, et dans ces cas-là, ils imitent le Christ, mais ils imitent aussi les fellahs égyptiens, qui sont des paysans pauvres, qui vivent en partie dans le désert, en partie dans les villes d'Égypte. On les trouve également dans les déserts de Syrie, puis dans les déserts de Palestine, et petit à petit, ils gagnent l'ensemble de l'Empire d'Orient jusqu'à Constantinople.
Alors ces moines, justement, on va les trouver aussi en Grèce, puisqu'on pense aussi à ce célèbre monastère du mont Athos dans 6e siècle, 8e siècle
9e siècle. Et il faut, pour comprendre comment le monachisme arrive en Occident, retracer toute l'histoire du monachisme. Alors, le monachisme pénètre en Occident au 4e siècle, notamment par l'intermédiaire d'Athanase d'Alexandrie, qui est exilé à Trèves en 335. Et à la fin du IVe siècle, on peut dire que le monachisme pénètre en Occident, et la figure monastique la plus connue, ça va être saint Martin de Tours, à tel point qu'il y a un adage qui se répond et qui dit « Là où est le Christ, on trouve saint Martin ».
Et alors, quand vous dites dans tout l'Occident, c'est-à-dire ça va être la Gaule, mais ça va être aussi les pays anglo-saxons, l'Angleterre, l'Irlande, qui ont de grands monastères.
Alors en fait, les premiers monastères sont fondés à Marmoutier, par Saint-Martin, à Lérins. De là, il y a des milieux de propagation du monachisme qui se mettent en place, et on voit des moines arriver en Irlande. Et le mouvement part d'Irlande. Il y a des centaines de monastères et d'ermitages qui sont fondés en Irlande. À partir de là, des moines comme Saint-Colomban viennent d'Irlande, pénètrent sur le continent en Gaule, fondent par exemple des monastères comme Luxeuil et Bobbio, et arrive le père des moines d'Occident qui est Saint-Benoît, Qu'est-ce que va faire Saint Benoît? Eh bien, Saint Benoît, il va donner une règle du monachisme, inspirée des règles orientales, qu'il va en quelque sorte synthétiser, résumer, en particulier la première règle de Saint Pacôme et les deux règles données par Saint Basile. Alors, qu'est-ce que fait Saint Benoît? Il les résume, il les synthétise, il crée une règle qui ensuite va être adoptée par tous les monastères d'Occident. Monastères, eh bien, qui essaiment à mesure que le christianisme avance en Occident, en Frise par exemple, en Germanie.
Donc il y a eu un moment en Occident où il y a eu énormément de moines.
Alors on peut dire que le moment fort du monachisme en Occident, il commence à partir du 9e siècle. Au 9e siècle, on observe une certaine relâche dans les monastères qui sont notamment gagnés par la contamination du siècle. C'est la grande pensée du monachisme. Comment faire pour être au désert alors que la civilisation est là? Donc il y a une réforme importante qui est menée par Saint Benoît d'Agnane de manière à faire retourner les monastères à une vie monastique plus primitive et qui est menée sous l'égide des Carolingiens. Et puis ensuite, en l'an 1000, arrive Cluny qui est fondé en 910 et qui, pour échapper au mouvement de sécularisation entamé par les laïcs qui essayent de grignoter les monastères, de prendre leurs richesses matérielles mais aussi leurs richesses intellectuelles, eh bien qu'est-ce que fait Cluny? Cluny va essayer d'échapper à l'emprise des seigneurs et des laïcs pour se rattacher directement à Rome, dont elle se veut la fille.
Alors justement, vous employez le mot monastère, Sylvie Barnet, mais je pense que Cluny fondait des prieurés. Alors quelle est la différence entre un monastère et un prieuré?
C'est une différence qui est subtile. En effet, Cluny se rattache à Rome, se rattache à la papauté et décide de fonder un ensemble d'abbayes dirigées par un abbé. Abbé vient du mot grec abbas qui signifie père. Et ces abbés, ils sont en quelque sorte les fils et les filles de Rome. Donc chaque abbaye est conçue et considérée et présentée comme une filiale de sa mère, qui est la mère Église, qui est la mère romaine. On a là tout un quadrillage d'abbayes qui se met en place dans l'ensemble de la chrétienté, qu'on va appeler les abbayes clunisiennes, et qui dépendent directement de Rome et qui vont restaurer la grandeur du monachisme, parce que au XIe siècle, eh bien Cluny, on peut dire, rayonne sur l'ensemble de l'Occident. Il y a des centaines de monastères.
Alors au XIIIe, il y a tout de même la belle figure d'un moine. Est-ce qu'on peut dire que Saint François d'Assise est un moine?
Alors, pas exactement, dans le sens où Saint François d'Assise est un religieux mendiant, au sens où il mendie, son idéal spirituel étant l'idéal du Christ mendiant. On n'est pas tout à fait dans le même type de spiritualité. Mais Saint François d'Assise s'est retiré au début de sa vie spirituelle dans un ermitage. Donc il a touché à cette vie spirituelle de la rencontre avec Dieu dans la solitude intérieure. Entre Saint François d'Assise et Cluny, et entre Cluny et Saint François d'Assise, il y a par contre des expériences monastiques très fortes qui renouent avec les deux tendances du départ du monachisme.
Lesquelles ?
On a par exemple un renouveau du mouvement érémitique avec la fondation de l'ordre des Chartreux de Saint-Benoît, ceci en France, à côté de Grenoble. Et puis, on a d'autres fondations plus érémitiques qui essayent de fonder des déserts en Italie, comme par exemple Saint-Nils de Rossano. D'autre part, on a des expériences de retour à une vie monastique en communauté plus proche de l'idéal de la vie monastique. Et là, ça sera la grande réforme de Cîteaux, qui est fondée par Robert de Molème aux alentours du début du XIe siècle et qui va être repris en main par la grande figure de Saint-Bernard.
Alors la vie des moines, ça consiste évidemment à prier, je suppose, mais on dit aussi à travailler de ses mains. Est-ce qu'ils ont tous cet idéal?
Alors l'idéal monastique, par définition, c'est ora et labora, c'est-à-dire prier et travailler. Mais un grand ordre comme l'ordre cistercien essaye de montrer que lorsque le moine prie, il travaille, et que lorsqu'il travaille, il prie.
C'est merveilleux, donc finalement il n'y a pas de différence dans les stades de la vie.
Et on a des textes absolument fascinants où on nous raconte comment les moines, pendant qu'ils méditent et qu'ils prient, eh bien, broient avec leur bouche le grain spirituel, de la même manière qu'on les voit moudre le grain dans leur moulin, puisque les abbayes cisterciennes vivaient en autarcie, produisaient elles-mêmes leur pain et ce qui les faisait vivre.
Alors Sylvie Barnet, il y a donc, si on vous a bien entendu, des moines chez les chrétiens orthodoxes, des moines chez les chrétiens catholiques. Et y en a-t-il chez les chrétiens protestants?
Alors, les protestants reconnaissent comme chef spirituel de leur église le pasteur. Et l'idéal monastique va plutôt être vécu à l'intérieur des communautés protestante. Il n'y a pas de monachisme protestant au sens propre du terme.
Bien qu'on dise que les protestants se soient retirés au désert dans les Cévennes, mais c'est parce qu'ils ont fui des persécutions, mais ça n'était pas véritablement pour pratiquer un monachisme.
Disons que l'expérience du Christ au désert est toujours relue dans l'histoire, y compris par les communautés protestantes, et qu'il peut toujours y avoir une relecture spirituelle d'un mouvement politique.
Alors après, au fil des siècles, Sylvie Barnet, les ordres monastiques se sont-ils développés?
Alors les ordres monastiques connaissent des réformes. On peut considérer qu'à la fin du Moyen-Âge, ils sont éclipsés par les ordres mendiants, notamment les franciscains et les dominicains, qui s'implantent dans les villes. Or, le grand problème du monachisme, c'est qu'il est au désert, c'est-à-dire à la campagne, et que le mode de civilisation de l'Occident change et devient de plus en plus urbain. Alors, on assiste au XVe siècle notamment à une réforme des ordres monastiques destinés à les emmener notamment en ville. Ça sera le cas des chartreux, par exemple. Autre modification, on va voir de plus en plus de branches féminines.
Ah oui, on n'a pas parlé des moniales, mais elles existent aussi.
Branches féminines qui vont être de plus en plus nombreuses. Il y a des monastères doubles des Jean Cassien en Orient, au IVe siècle, c'est-à-dire des monastères où il y a à la fois des hommes et des femmes. Mais c'est plutôt mal vécu dans l'ensemble de la chrétienté médiévale.
Alors il y a des moines qui sont, comme vous le dites, plus ou moins en ville ou à la campagne, c'est-à-dire en contact avec la population. Et puis il y en a qui sont complètement retirés dans le silence et qui n'ont plus de contact. Comment vit-on cela?
Les moines ne sont jamais seuls, dans le sens où la grande rencontre de leur vie, c'est Dieu.
Donc au fil des siècles, si on arrive maintenant au siècle d'aujourd'hui, alors est-ce que le monachisme, est-ce qu'il y a des jeunes qui se consacrent à la vie monastique? Est-ce qu'il y a des vocations pour devenir moine?
Oui, songeons par exemple aux moines de Thésée, qui ont fondé une communauté qui rayonne aujourd'hui dans le monde entier et dont la vocation est proprement œcuménique, c'est-à-dire universelle. Au XXe siècle, on a aussi la grande figure du père de Foucault,
ah bah lui,
qui est parti
au désert. Oui.
Et puis, dans l'actualité récente, les moines de Tibrine ont fait beaucoup parler d'eux par leur exemplaire présence au monde.
Dans un monde, oui, absolument. Donc il y a toujours des vocations.
Le père de Foucault disait que plus on est au désert, plus on est dans le monde.
Donc il y a toujours des vocations.
Oui, il y a toujours des vocations monastiques aujourd'hui.
Il y a même des moines en ville à Paris, nous en avons quelques-uns aussi. Est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ a encouragé les gens à être moines?
Jésus-Christ avait pour disciple Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a été pris comme modèle par de nombreuses communautés monastiques. Par exemple, Robert d'Arbrissel, au XIe siècle, s'est inspiré de la figure de Jean-Baptiste pour prôner l'idéal monastique de son temps. Il disait qu'il allait comme lui, vêtu d'une longue barbe et de haillons, donc on peut relire toute l'histoire et se demander si mai 68 n'a pas été un mouvement monastique à sa manière, mais là je plaisante.
Sylvie Barnet, vous êtes historien des religions, donc vous nous parlez des moines dans le christianisme, mais il y a aussi des moines dans les autres religions. Un petit mot sur cette tendance?
C'est tout le problème de l'histoire comparée des religions. Le monachisme est une institution qui naît dans le monde chrétien au sens où il s'agit véritablement d'imiter la spiritualité du Christ au désert. Maintenant, dans d'autres religions, je pense notamment à l'hindouisme, les renonçants, qui sont les grandes figures spirituelles de l'hindouisme, se retirent dans des ashrams où ils reçoivent les hommes et les femmes désireux de vivre une vie davantage centrée sur l'intérieur et l'essentiel. Donc en ce sens-là, on peut dire qu'il y a un monachisme universel, c'est-à-dire une volonté et un désir de l'homme qui est un désir d'intériorité et un désir de rejoindre le ciel.
Merci Sylvie Barnet, c'est sur ces mots que nous concluons notre chronique. On vous retrouve bientôt.